Ce dimanche, c'est la fête de Pentecôte et pour en parler, nous accueillons l'abbé Philippe Baïtia, qui est chancelier et responsable du service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle. Bonjour Philippe
Bonjour.
Baïtia. Alors cette fête de Pentecôte, elle a des origines juives. Quelle est l'origine de cette fête?
Cette fête de Pentecôte, elle a effectivement des origines juives. C'est donc la fête de l'Alliance, de la remise des commandements à Moïse, des tables de la loi plutôt, d'ailleurs à Moïse. Et, d'un certain point de vue, par rapport à ça aussi à voir, si je puis dire, avec la Pentecôte chrétienne, parce que la loi de Dieu est inscrite non plus sur des tables, mais dans les cœurs par l'Esprit Saint. Alors ça, c'est Israël. La Pentecôte, donc, comme je le disais dans mon émission à Pâques, donc on a suivi le schéma de Saint-Luc. La résurrection, 40 jours après l'ascension, et le 50e jour, la Pentecostée, c'est ce que veut dire ce mot, 50e jour, donc le don de l'Esprit. Donc, la liturgie a suivi ce schéma-là, et donc la Pentecôte chrétienne, c'est la commémoration donc du don de l'Esprit aux apôtres, au Cénacle.
Le grand protagoniste de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint, vous venez d'en parler. Est-ce qu'on peut dire que là, on a redécouvert un peu l'Esprit Saint assez récemment, finalement, dans l'Église, peut-être grâce aux communautés charismatiques?
Déjà dans l'Antiquité, la fête de Pentecôte est marquée par ce don de l'Esprit. Et alors, de deux manières. D'une part, bien sûr, on va écouter la lecture d'Acte 2, du récit de la venue de l'Esprit sur les apôtres. Mais aussi, ça va être un peu... Quand on n'a pas pu être baptisé à Pâques, parce qu'on est tombé malade, parce qu'on est en voyage, par exemple, je parle de baptême d'adulte, il y a une séance de rattrapage, donc, à la Pentecôte. Donc, comme on le disait la fois dernière, on commence la veille, le samedi, et on termine le dimanche, et les lectures sont les mêmes que, donc, à Pâques. Donc, bien sûr, cette commémoration, c'est plus fort que ça, cette expérience du don de l'Esprit, au Moyen-Âge par exemple, dans la cathédrale, du haut des espèces de petits balcons, on jetait des pétales rouges sur les assistants. Ça, c'est le passé. Encore que la vigile de la Pentecôte ait été renouvelée il y a une vingtaine d'années, je crois. Depuis, les années 70, un peu renouveau charismatique, c'est 1973, 1974. Alors, il y a bien sûr l'influence du renouveau charismatique et aussi l'influence des églises d'Orient, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes, de leur théologie, de leur spiritualité, où elles ont davantage approfondi le mystère de l'Esprit-Saint. Donc, tant d'un point de vue théologique que d'un point de vue peut-être un peu plus vital. Donc, l'expérience, si je puis dire, de l'esprit a été rendue plus sensible. Donc, effectivement, comme vous le disiez, à travers les groupes du renouveau, par la louange, par le témoignage, et ce genre de choses. Par l'amour de la parole de Dieu, service des frères, etc.
Donc vous l'avez dit, finalement, notre baptême s'accomplit pleinement par la confirmation.
Voilà. Dans l'Antiquité chrétienne, et aujourd'hui encore, quand on baptise des adultes, et on va en baptiser quelques-uns dans les paroisses à cause du confinement, ils n'ont pas pu être baptisés à Pâques, par exemple. Donc, quand on baptise des adultes, ils reçoivent les trois sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation, et ils participent à l'Eucharistie. Pour des plus jeunes, bien sûr, la confirmation est plus tardive, si on peut dire. Mais déjà dans l'Antiquité chrétienne, et bien encore aujourd'hui, ce don de l'Esprit accomplit la grâce du baptême.
À Pentecôte, est-ce que c'est l'Esprit de Jésus qui vient sur les apôtres ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Bien, Jésus, quand il parle de l'Esprit Saint, en parle en même temps en disant l'Esprit du Père, donc la première personne de la Sainte Trinité, et en même temps, il dit l'Esprit que je vous enverrai. Donc voilà, c'est un commun esprit du Père et du Fils. Il n'y a pas un Esprit Saint qui serait du Père et un Esprit Saint qui serait du Fils. Bon, là, on entre, bien sûr, dans le mystère trinitaire, dans cette espèce d'échange indicible entre le Père et le Fils. Il est, si j'ose dire, en prenant nos mots à nous, mais bon, qui sont faibles, il est d'une telle intensité que surgit la personne de l'Esprit-Saint. L'Église dira que il procède du Père et du Fils, ou qu'il procède du Père par le Fils, selon la manière dont on envisage les choses. Et il est donc l'Esprit commun du Père et du Fils, et il fait l'unité du Père et du Fils.
L'Esprit-Saint a plusieurs noms.
Oui, l'Esprit-Saint a plusieurs noms. Il y a la roue à Yahvé, voilà, Jésus en parlera en Jean 3. Voilà, le souffle de Dieu.
Voilà. Donc ça, c'est en hébreu.
Oui, la roue à Yahvé, en hébreu. Il y a l'Esprit, bon, un terme malgré tout un peu mystérieux. On parlera du Saint-Esprit comme du divin méconnu, sous certaines plumes. Il y a le paraclet, alors le terme a plusieurs sens. Le paraclet, ça peut être un paraclétos, c'est un avocat qui vous défend dans une cause. Bon, c'est également quelqu'un qui vous assiste. Voilà, c'est
le défenseur dans
l'évangile. Voilà, alors on le traduit, ce terme paraclet, on le traduit par le défenseur, mais ce n'est qu'une acception de ce terme.
L'Esprit Saint est représenté par des langues de feu, que vous l'avez évoqué avec les pétales de rose au Moyen-Âge, et par la colombe.
Et par la colombe. C'est-à-dire que l'expérience que Jésus fait de l'Esprit Saint, lors de son baptême, les évangélistes nous disent qu'il a vu quelque chose comme une colombe. Comme. Alors bon, bien sûr, on s'est posé beaucoup de questions sur pourquoi l'Esprit-Saint était-il figuré sous la forme d'une colombe. Alors bon, chez les écrivains chrétiens, c'est la colombe de Noé, la fin du déluge. La fin du péché, c'est le symbole de la paix, c'est le symbole de l'alliance. C'est aussi la colombe, voilà, dans le Cantique des Cantiques, le symbole de l'épouse. Bon, sûrement le lien entre Dieu et l'Église. Donc vous avez cela. Ça, c'est pour Jésus. Tandis que pour les apôtres, là aussi, c'est comme des langues de feu qu'ils voient se poser sur un feu qui se répartit en langue. Donc, ben voilà, là aussi, le feu, bon, c'est ce qui réchauffe, donc ce qui va donner aux chrétiens, si je puis dire, un peu de punch dans le témoignage, dans la difficulté. Le feu, il n'y a pas l'électricité à l'époque. Voilà, mais c'est ce qui éclaire. Le feu, c'est aussi ce qui purifie. Alors ça, on le trouve chez Jean de la Croix, par exemple. Quand on jette une bûche dans le feu, l'hiver, quand on a une cheminée du moins, ben elle va crépiter, elle va râler, elle va rejeter tout un tas de sucs, et puis petit à petit, elle va devenir une braise. On ne saura plus si c'est du feu ou si c'est du bois. Bon voilà, la vie spirituelle, quand l'Esprit Saint vient, ben, il fait rejeter tout ce qui, petit à petit bien sûr, tout ce qui n'est pas conforme à Dieu, et il mène dans une... à la fin de la vie, la fin de la vie spirituelle, du moins sa plénitude de la vie spirituelle, ben dans une espèce de, d'union profonde entre Dieu et l'homme.
Est-ce qu'on peut dire que Dieu, finalement, le jour de la Pentecôte, répare ce qui s'est passé au moment de l'épisode de la tour de Babel ?
Alors, effectivement, parmi les lectures de la vigile de la Pentecôte, on lit effectivement le chapitre 11 de la Genèse, donc concernant la tour de Babel, ou des... Alors bien sûr, c'est un coup de pied aux ziggourats babyloniens, mais où des hommes veulent élever une tour jusqu'au ciel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où l'homme a voulu être semblable à Dieu, suivant l'incitation du serpent, là, ça va être collectif. Voilà, c'est un peu une société qui veut monter jusqu'au ciel, jusqu'au domaine de Dieu, quelque part, un peu se passer de Dieu, devenir Dieu. Et donc, Dieu va confondre ces gens-là, ils vont plus se comprendre puisqu'ils vont parler des langues différentes. Tandis qu'à la Pentecôte, c'est l'inverse. Ben, les apôtres, oui, bien sûr, ils doivent parler araméen. Il y a quelques-uns qui parlent grec, André, Philippe, enfin on voit dans l'Évangile que parfois ils font interprète, mais bon, ils ne parlent pas plus de langue. Et eux, contrairement à Babel, se voient dotés du don des langues, ce qui fait que chacun comprend l'annonce de l'Évangile dans sa propre langue.
D'où, au moment du Concile Vatican II, la place donnée à toutes les langues, finalement.
Alors, oui, à travers cela, il y a le fait, bon, comme disait Saint Grégoire le Grand, que la foi peut s'exprimer de manière diverse. Alors, il le disait pour des affaires sacramentelles, mais bien sûr, la foi s'exprime différemment si je suis un Européen, si je suis un Africain, si je suis donc un Oriental. Et à travers les langues vernaculaires, la liturgie en langue vernaculaire, il y a bien sûr cela derrière. Il y a aussi le fait qu'on a désiré que les chrétiens accèdent donc à la liturgie, à la richesse du mystère du Christ aussi plus facilement à travers les langues qui leur étaient propres.
Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire sur l'Esprit Saint et sur cette fête de Pentecôte. Un grand merci à vous, abbé Philippe Beitia, et très bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.